Europe Soir Weekend, Pierre de Villeneuve.
Louis Dragnel, chef du service politique d'Europe 1, Louis Osalter de Marianne, Maxime Yedo et Isabelle Florenne, députée Modem des Hauts-de-Seine. Déjà au Moyen-Âge, le poète François Villon disait « En grande pauvreté ne gît pas grande loyauté ». Et pourtant, loyal il l'est, il le dit, Édouard Philippe, hein, Emmanuel Macron, loyal et libre, traduisez, pas impliqué dans le combat présidentiel. Mais lorsqu'il sonne l'alerte, pas plus tard qu'hier, dans le magazine Challenge, l'alerte sur la dette, la façon dont on dépense l'argent public en France, comment est-ce qu'on peut prendre ça? Quand il dit, voilà, pour régler les dépenses publiques qui n'augmentent pas plus vite que la croissance, il faut s'y tenir. La première réforme à faire, c'est celle des retraites, à près de 330 milliards. Personne n'imagine d'appauvrir les retraités, alors il faut allonger la durée de vie. Enfin, je veux dire... Elle est où la loyauté, là, Emmanuel Macron, Louis Dragnel ?
Alors, il y a deux questions. Il y a une question de fond, une question de forme. Sur le fond, moi, je suis plutôt acquis. Je trouve qu'il a plutôt raison sur la question, notamment le fait qu'on doive travailler beaucoup plus long, enfin plus longtemps, jusqu'à 67 ans. Et ensuite, effectivement, ça intervient dans un contexte politique où Emmanuel Macron.
Il aurait pu lui envoyer un mail plutôt que de faire un article dans
Challenge. Il était quand même Premier ministre pendant quelques années au gouvernement, donc il aurait pu le faire. Et puis, effectivement, en fait, ce qui est en train de se passer, c'est que le MoDem que vous représentez, chère madame, ici ce soir, et de l'autre côté, Édouard Philippe, sont déjà en train de s'organiser pour savoir comment va se passer le prochain quinquennat. Ça se traduit comment, en fait? Ça se traduit par dans quelle circonscription je peux investir tel ou tel député, parce que à la fin, chacun se compte. Le MoDem souhaite avoir le plus grand nombre de députés. De son côté, Édouard Philippe le souhaite également. Et puis, entre les deux, il y a La République en marche. Et donc, ce qui est en train de se passer avec Édouard Philippe, c'est qu'il est en train de préempter un certain nombre de thèmes pour essayer de les imposer et ensuite, pour, dans le même temps, négocier un certain nombre de circonscriptions.
Parce il a hérité du en même temps, c'est
quoi
ça.
Quoi qu'il se passe, mon cher Pierre, si Emmanuel Macron gagne, Édouard Philippe veut peser. Et d'ailleurs, si Emmanuel Macron remporte la prochaine présidentielle, sa gouvernance ne sera pas du tout la même que celle qu'on a connue pendant 5 ans. Ce sera très compliqué parce qu'il faudra composer avec des forces politiques qui sont un peu moins godillottes, entre guillemets, si le mot existait, on pourrait le dire comme ça. Et donc ça, c'est la première chose, si Emmanuel Macron est réélu. Et puis si Emmanuel Macron n'est pas réélu, Édouard Philippe, il a des ambitions pour après. Édouard Philippe, il se dit, tiens, ça pourrait être intéressant d'avoir... un groupe parlementaire, d'avoir une formation qui soutient mes idées, qui essaye de porter un certain nombre de messages.
Donc une opposition constructive, d'une certaine manière.
Alors, c'est constructive autour de lui, surtout pour le faire émerger, pour le faire monter.
Un shadow cabinet, comme on dit en Angleterre.
Exactement. Et du coup, voilà, donc le contexte actuel, c'est surtout, tout le monde se pose la question, dans la majorité d'un point de vue assez large, sur ce que sera cette majorité après l'élection présidentielle.
Dans la majorité, on se pose la question, Isabelle Florenne.
Oui. Et alors on réfléchit. Alors, peut-être qu'il faut pas sauter les étapes et qu'avant, il y a l'étape présidentielle et que cette étape, elle est importante. Avant de penser à l'étape de 2027, il y a l'étape de 2022. Et on y travaille. Et on y travaille avec la constitution d'un pôle central de la vie politique. Et vous avez entendu sûrement les prises de parole de François Bayrou, de Richard Ferrand sur le sujet. Et de la fondation d'un rassemblement démocrate central de la vie politique. Bien sûr ouvert à tous ceux qui voudront soutenir Emmanuel Macron, qui j'espère sera candidat d'ici la fin de l'année. Mais voilà, donc c'est quand même ça, c'est quand même ces deux forces politiques qui sont La République En Marche et le MoDem qui ont porté Emmanuel Macron à l'élection présidentielle.
C'est très intéressant ce que vous dites quand vous dites il y a une perspective pour 2027, mais en attendant il y a 2022. Pardonnez-moi, mais il y a quand même beaucoup d'observateurs, et ça commence à monter, qui disent les trains ça passe pas 200 fois. Pourquoi cette obsession d'Edouard Philippe de 2027, alors que, enfin, en tout cas c'est ce qu'on lui prête, alors que 2022 est à portée de main?
Parce que son capital politique vient aussi de sa loyauté à Emmanuel Macron. C'est-à-dire, je pense que des gens pourraient se détourner de lui s'il trahissait Macron effrontément.
C'est ce que Macron... La proportion serait trop grande, la proportion de ceux qui se détourneraient.
Je ne sais pas s'il a fait le calcul lui-même. Je pense que c'est aussi une question d'opportunité. Il faut aussi voir la cote de popularité actuelle du président de la République. Le fait qu'il soit en tête dans tous les sondages d'intention de vote. Il est encore à 23-24% dans le dernier sondage Ipsos. Édouard Philippe a tenu compte de ces paramètres-là. Quand Emmanuel Macron trahit François Hollande et se présente et lui coupe l'herbe sous le pied, François Hollande a une cote de popularité catastrophique, aucun sondage ne le voit réélu. C'est quand même pas le même contexte politique. Emmanuel Macron a suffisamment bordé. Donc je pense qu'Edouard Philippe, il a clairement fait la mue déjà, il faut faire une mue quand même pour se projeter en candidat à la présidentielle. Là, on voit qu'il l'a fait, il donne des interviews programmatiques où il explique en gros ce que serait la France sous Edouard Philippe. C'est une France où on travaille beaucoup plus, il faut rembourser la dette. Toute sa vie et voilà
c'est un peu du programme
c'est labeur
Fillon,
il n'a pas encore dit combien de fonctionnaires il a supprimé mais ça arrivera
c'est vrai sur la dette même avant la crise pardon non mais il y a juste une petite remarque mais par rapport à ce qu'il souhaite et ce qu'il explique il a toujours dit ça Edouard Philippe mais dans la pratique l'exercice du pouvoir ce qui est vrai c'est que avant la crise la dette a augmenté
avant la crise Covid
bien sûr il y avait pas du tout
avant les aides
il y avait pas de volonté en tout cas il y avait une volonté
Et sur l'âge pivot, la question de l'âge pivot, on a quand même eu des discussions et on a eu du monde dans la rue et on a eu
beaucoup de discussions et beaucoup de manifestations aussi.
Et donc là, je dis simplement pour ce que nous représentons autour d'Emmanuel Macron, c'est-à-dire quand même une certaine idée du dépassement de la vie politique, je crains que d'aborder, et c'est très bien qu'on ait le débat avec Édouard Philippe, qu'on l'ait avec lui, que d'aborder la question des retraites uniquement par l'allongement de la durée et de l'âge pivot in fine, parce qu'il revient toujours à cette idée-là, ne soit pas tout à fait notre conception, en tout cas le MoDem, de la façon d'aborder le sujet. Si on parle de l'allongement de la durée des cotisations.
C'est la différence entre la droite et le centre.
C'est intéressant d'avoir le débat. C'est là que c'est intéressant ce qu'incarne toujours, je pense, Emmanuel Macron et les hommes et les femmes politiques qui l'entourent et dont je fais partie. C'est-à-dire une idée du dépassement des clivages et d'un certain nombre d'idées et d'approches sur ces sujets, dont les retraites fait effectivement complètement partie.